Voici le dossier de Marie-France Martel.
Madame Martel.
Bonjour, Monsieur Pelletier.
C'était, il faut dire, rendez-vous, malheureusement, pour certaines personnes, au palais de justice aujourd'hui. C'est pas le genre d'endroit que t'aimes avoir un rendez-vous, et surtout pour ton avenir.
Effectivement.
Et aujourd'hui, plusieurs avaient donc rendez-vous avec la Cour et étaient présentes pour certains dossiers qui ont retenu ton attention.
Oui, entre autres, le dossier d'Élisabeth Savoie. Élisabeth Savoie, c'est cette femme de 29 ans qui est accusée de tentative de meurtre de son colocataire. Ça se passait à Sherbrooke le 13 novembre dernier. Elle aurait poignardé cet homme-là au cou. Lui, il avait été blessé gravement.
Il y avait une évaluation?
Oui, dans son cas, il y a eu une évaluation sur, dans le fond, sa responsabilité criminelle au moment des faits. Parce que pour ce qui est de l'aptitude à comparaître, Élisabeth Savoie avait été jugée apte à faire face aux procédures judiciaires. Il y a une autre évaluation qui vient d'être terminée pour savoir, au moment des gestes, là, quelle était sa responsabilité au niveau criminel. Et dans ce cas-ci, le rapport exclut la possibilité d'invoquer la non-responsabilité criminelle, donc le fameux article 16. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Élisabeth Savoie a été transférée dans un centre de thérapie. Donc, elle va résider au domaine personnage pour y traiter différentes problématiques, entre autres liées à l'alcool, problématiques liées à sa personnalité. Et je vous fais entendre son avocat, Maître Patrick Fréchette, là, qui nous parle du rapport sur son évaluation et de sa remise en liberté.
On prend acte des conclusions du rapport, sans entrer dans les détails à cette étape-ci, parce que ce serait prématuré de le faire. Il y a des conclusions qui sont tirées par l'équipe médicale, dont on prend acte. Il y a peut-être d'autres pistes d'explication qui peuvent mener peut-être à d'autres moyens de défense sur l'accusation telle que portée. Ça reste à explorer. Madame a pu être remise en liberté aujourd'hui, compte tenu d'une problématique qu'elle a. Donc, elle intègre le domaine personnage pour y compléter une thérapie avec les conditions habituelles imposées dans ce genre de dossier-là.
Et parmi les conditions, Martin, on dit qu'elle doit demeurer 24 heures sur 24 au domaine personnage, respecter tous les règlements de cette maison de thérapie. Également, comme c'est d'usage, Élisabeth Savoie ne peut entrer en contact avec la victime dans cette affaire-là. Oui. Il y a non seulement la victime, mais d'autres personnes ni se trouver sur les lieux de son ancien logement. Alors, elle va voir, bon, pour ce qui est de sa thérapie, elle y restera là, quelques semaines et son retour devant le tribunal est prévu le 19 février prochain. Elle doit aussi prendre une médication, faire un suivi avec des médecins, ne pas consommer d'alcool, etc. Alors, il y a quand même beaucoup de conditions,
mais
il faudra voir pour la suite des choses, quelle défense là, on va présenter.
OK. Coralie Ouellet, est-ce que c'est cette dame-là qui avait donné une savate à un policier?
Voilà, Coralie Ouellet, un coup de pied derrière la tête. Je vous rappelle les faits. Donc, elle avait été arrêtée à la suite d'une conduite en état d'ébriété, presque trois fois la limite permise. Et une fois qu'elle était dans l'autopatrouille, elle avait donné un coup de pied derrière la tête au policier qui conduisait. Lui, ça lui avait fait perdre momentanément connaissance, conscience finalement. Il avait subi un traumatisme crânien, avait dû être en arrêt de travail pendant près d'un mois à la suite des événements. Alors aujourd'hui, la jeune femme de 22 ans a admis sa culpabilité à ses accusations de conduite en état d'ébriété et de voies de fait causant des lésions à un policier. Elle a aussi plaidé coupable à une accusation de harcèlement envers une de nos collègues.
Oui.
Parce qu'une fois qu'on avait médiatisé cette affaire-là, Coralie Ouellet
était mécontente. C'est juste contre le policier, entre autres.
Oui, c'est ça. Elle était mécontente. Ouais. Elle avait contacté là, une de nos collègues à la salle des nouvelles. Et avait proféré là, certains propos. Donc, aujourd'hui, elle a réglé la totalité de ses dossiers avec la justice. On parle d'une sentence qui lui a été imposée 90 jours de prison à purger les fins de semaine. Ça, c'est une sentence, une suggestion commune qui a été entérinée par le juge Conrad Chapdelaine cet après-midi. Aussi, 240 heures de travaux communautaires. Et j'ai parlé avec son avocate, Maître Michel Lamarre-Leroux. On peut l'écouter nous dire que sa cliente, donc Coralie Ouellet, a entrepris des démarches pour éviter que de telles situations se reproduisent.
Il y a eu beaucoup de démarches de relations d'aide qui ont été entreprises et des démarches pour elle-même, pour avoir une meilleure connaissance de ses réactions dans des situations comme ça et éviter vraiment que ça se reproduise. Et ça, elle l'a fait d'elle-même. Elle a entrepris ces démarches-là de façon volontaire. Mm-hmm. Ce n'était pas sous ordre de la Cour. Elle va également remettre une lettre d'excuse aux policiers. C'était extrêmement important pour elle de faire ces excuses-là, qui est un comportement qu'elle reconnaît comme étant inacceptable.
Et bon, ce que son avocate a ajouté, c'est que la médiatisation de cette affaire-là, ça avait été difficile pour Coralie Ouellet. Évidemment, lorsque nous sommes au palais de justice, nous rapportons certaines causes. C'est sûr que pour les personnes qui sont accusées, c'est jamais agréable de se retrouver comme ça dans les médias ou sur Facebook ou dans les différentes plateformes sur Internet. Mais bon, ça fait partie de notre travail. Et ça, bon, ce que dit son avocate, c'est que maintenant, Coralie Ouellet veut passer à autre chose, purger sa sentence et trouver des moyens là, pour améliorer là, sa situation.
Et la gestion également de...
De la colère.
La colère.
Voilà, voilà.
Parce que j'étais aux côtés de notre collègue lorsqu'elle l'a téléphoné.
Oui, c'est
sûr. Je l'entendais.
C'est sûr qu'on n'a pas un travail toujours agréable, Martin, de rapporter ce qui se passe au palais de justice, mais ça fait partie du travail de journaliste.
Oui, puis il faut l'assumer.
Oui.
Un fraudeur qui admet ses torts.
Oui, Eddy Roy, qui a plaidé coupable aujourd'hui, il a admis avoir fraudé deux entreprises de plomberie pour un montant de près de 20 000 $. L'histoire, c'est qu'Eddy Roy, lui, a loué un logement dans un immeuble de l'arrondissement de Fleurimont et il s'est fait passer pour le conjoint de la propriétaire de l'immeuble. Alors, il a contacté les deux entreprises en disant « On a besoin de faire des travaux de plomberie dans le logement qui était le sien, finalement. » Alors, il a fraudé l'entreprise Plomberie Roy pour 9 000 $ et les entreprises Stéphane Desgnaux pour 10 000 $.
Donc, qu'est-ce qui s'est fait installer chez lui pour à peu près 20 000 $ de plomberie?
Voilà, Martin. Et ça, il faut dire que ces montants-là sont contestés par la défense.
Okay.
Il y aura un débat sur les pertes financières justement, qui sont allégués dans cette affaire-là. Eddy Roy, lui, a admis avoir fait ces gestes-là, mais pour ce qui est de l'ampleur de la somme fraudée pour entreprise Stéphane Desgnaux et Plomberie Roy, bon, il y aura des discussions qui auront lieu là-dessus.
Mais à quelque part, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait faire et en deux temps. Là,
oui, par
un premier contrat. Un deuxième contrat pour à peu près 20 000 $ de plomberie.
Ah, je pense qu'il a refait faire la plomberie au complet.
Ben là!
Hein? Dans son logement. Donc, c'est sûr que lorsque ça passe à la cour, on n'a pas tous les fins détails, mais toujours est-il que lui a admis ça aujourd'hui. Il a des antécédents, Eddy Roy, en semblable matière. Donc, il va revenir devant le tribunal le 19 décembre, donc la semaine prochaine. Les avocats vont discuter, mais pour ce qui est des sommes comme telles, mais lui, c'est ça. Il s'était fait passer carrément pour le conjoint de la propriétaire de l'immeuble. Donc, c'était crédible, mais finalement, les entreprises n'ont jamais eu l'argent, n'ont jamais été payées pour les travaux qui ont été faits donc dans ce logement-là. Voilà.
Tu pensais qu'à un moment donné, le gars s'est levé? Dis tabarouette. Va me faire passer pour le conjoint de la propriétaire de l'immeuble, m'a appelé des firmes de plomberie, m'a faire du gros travail chez moi, dans mon appartement, puis... La facture va disparaître, toi.
Et finalement, c'est la propriétaire qui a dû elle-même débourser
Ben
les
oui.
sommes qu'elle n'était pas au courant d'avoir engagées auprès de ces deux entreprises-là. Alors, ça a été difficile, évidemment, d'apprendre qu'elle devait 20 000 $ à des entreprises. Hein? C'est ça qui est arrivé.
Non, mais moi, je demeure curieux.
Ouais.
S'il y a des gens de l'entreprise ou de l'une des deux entreprises, puis vous savez c'était quoi les travaux, écrivez-moi. martin.pelletier@fm177.ca. Oui, mais je suis curieux de nature. Je veux savoir qu'est-ce qu'a pu faire pour 20 000 $ de tuyaux dans un appartement.
Des fois, ça monte vite, Martin.
Mais non, je le sais que ça... Hein? Oui, puis il y a le temps, puis... Oui. Non, je le sais. Ça dépend de la qualité du tuyau, puis ça dépend de ce que tu fais.
Les pertes sont contestées aussi, hein? C'est ça. Donc,
oui, mais il y a des factures là à l'appui.
Oui.
Méchant aquarium, je sais pas, c'est peut-être ça. Dans un mur, là, tu sais.
Grosse rénovation.
Oui, gros tuyau. En terminant. Un tout nu.
Oui.
Qui a plaidé coupable.
Oui, Charles Morin, qui a plaidé coupable à des accusations d'actions indécentes commises à l'endroit de deux femmes. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de Charles Morin, c'est qu'en avril dernier, il était dans un parc et il a sorti ses organes génitaux devant une femme qui prenait une marche. Bon, lui, il admet qu'il a sorti ses organes, mais il ne se rappelle plus s'être masturbé. C'était ça un peu qui était allégué. Et il a répété ces mêmes gestes-là devant une autre femme quelques mois plus tard dans
même
un
glace.
Parc en juillet. Je n'ai pas l'information à savoir si c'est au même parc, mais ce sont les mêmes gestes d'action indécente. Et Charles Morin, ce qui a été dit par la procureure au courant de la Couronne cet avant-midi, c'est qu'il avait agi ainsi parce qu'il tirait un plaisir d'être un exhibitionniste, donc de se montrer ainsi en public. Et ce que son avocate, Maître Audrey Parizeau, a dit, c'est que son client avait entrepris des démarches auprès d'un sexologue, auprès d'un médecin pour traiter cette problématique.
Contrôler ses pulsions.
Contrôler ses pulsions parce que lui, c'est ce qui lui fait plaisir, mais évidemment, c'est illégal, hein, on s'entend, dans des parcs comme ça, on ne peut pas faire ça.
Alors, tu peux pas te lancer le twist au gré du vent comme ça.
Exact. Ben non, ben... Voilà. Alors, deux femmes dans deux moments différents. Il n'a pas d'antécédent, Charles Morin, et les observations sur la peine ont été fixées donc au 23 mars prochain. Alors, voilà, Martin, vous voyez qu'au palais de justice, on en voit de toutes les couleurs. Hein?
Oui.
Ça fait le tour d'horizon de ce vendredi 15 décembre. Ce n'est que quelques histoires entendues parce que je dois faire des choix.
C'est pas le même magistrat qui a entendu toutes ces histoires-là?
Oui. Conrad Chapdelaine, c'était en salle 3 ce matin, tout ça.
C'est assez incroyable, pareil, comment les juges doivent s'adapter, tu sais, quand ils ont une grosse journée comme ça d'audience et surtout de cas qui se succèdent.
Oui.
C'est comme si, à un moment donné, il faut que tu remettes le cerveau à zéro
à chaque fois.
Le compteur à zéro à chaque fois.
Oui, oui parce qu'il y a des étapes différentes différents dossiers.
Oui, puis il y a des dossiers motifs à un moment donné. Puis là, toutes les questions de droit, puis tu l'as dit, ça arrive à différents moments des procédures. Mm-hmm. Certains, c'est au début, d'autres, c'est à la fin. Puis là, il y a des conditions, puis là, il y a des rapports.
Oui.
C'est fou, là.
Oui.
Ils ont beau être bien payés, les juges, mais ça reste quand même toute une notion d'adaptation.
Exact.
Exact. Lorsque tu as une grosse journée comme ça.
Oui. Oui. Alors, voilà pour ces cas-là.
Est-ce qu'il avait la toge?
Il avait la toge.
La grosse toge de juge.
Exact. Oui. Monsieur Chapdelaine, qui est toujours très sérieux.
Oui.
Oui. Vu que ça procède, hein?
C'est son tribunal, puis ça va par là.
Exact. Parce que des fois, il y a des causes, les avocats ne sont pas dans la salle. Alors, il dit, bon, on reporte, mais bon, il veut que ça aille vite, avec diligence.
Et si je ne me trompe pas, les avocats savent à quoi s'en tenir. Avec l'honorable Chapdelaine.
Sans doute.
Parce que oui, moi. Parce que c'en est un qu'il faut que ça procède.
Exact.
Allez, hop! Merci, Marie-France.
Hey, à lundi. À lundi, d'ailleurs, grosse journée, Martin. Présentation du budget 2018 de la
si
Ville.
Si on l'adopte.
C'est censé être adopté un petit peu plus tard dans la semaine. En tout cas, on pourra vous expliquer ce qu'il en est avec la nouvelle loi sur l'autonomie municipale. Ouais. Mais dès 14h, on va nous expliquer les tenants et aboutissants. Oui. Il y a un embargo parce que le conseil municipal est en soirée. Oui. Donc, vous aurez tous les détails mardi matin.
Gel de taxes.
Écoute, est-ce qu'on va avoir notre fameux gel de taxes?
Gel de taxes.
C'est à voir.
Pas le choix. Gel de taxes. Non, mais c'est sûr, gel de taxes. C'est les conséquences du gel de taxes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va reporter dans le temps?
Voilà.
Est-ce qu'on va augmenter les frais de service? La tuyauterie? Merci, Marie-France.
Bonne fin de semaine.
Bonne fin